La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus.
Yes, we can.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
Australia? Yes. Belgium? Yes. France? Yes.
Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained.
Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Peres, Mr. Abbas, welcome to this great occasion of history and hope.
On en parle, c'est l'actualité, un invité, et vous, les auditeurs. Aurore Boukassa et Miri Maman, nous vous proposons de revisiter l'actualité de la semaine avec l'un de ses acteurs. Parce que certains sujets sont souvent trop peu développés, parce qu'il est parfois judicieux de creuser l'information, on en parle. Dans cette émission, c'est vous qui posez les questions. Deux solutions. La ligne directe en studio, 02 648 70 20, ou le mail onenparle.judaïka@gmail.com. On en parle donc tous les dimanches de 18h30 à 19h30 sur Judaïka. Bonsoir à tous et à toutes, et tout d'abord une bonne et heureuse année 2011, puisque c'est notre première émission de l'année. À mes côtés, Aurore Boukassa. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Miri.
Alors ce soir, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à la crise politique en Belgique, et c'est une première, on en parle, puisque nous avons trois invités dans les studios, du moins deux pour le moment, puisque Marc Eskens nous rejoint le plus rapidement possible. Alors ce soir, on en parle avec vous, Daniel Baclen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du groupe et maire à la Chambre et candidat à la présidence de votre parti. On en parle également avec vous, Christos Doulkeridis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État écolo et ministre-président de la COCOF. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle à nos auditeurs donc, que Marc Eskens nous rejoindra le plus rapidement possible. Il est ministre d'État CDNV et auteur de nombreux ouvrages, dont « À la recherche du temps vécu, mes vies », édition Racine. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est un nouvel échec dans les négociations institutionnelles. Jeudi soir, le conciliateur Johan van den Hout a jeté le gant. Il a donné sa démission au roi et a demandé donc de le décharger de sa mission de conciliation. Aurore, je me tourne vers vous. Van den Hout n'est pas le premier à rendre son tablier en tant que médiateur depuis les élections de juin dernier, des élections qui ont marqué le début de la crise.
Et oui, en effet, un dimanche de l'an 2010, le 13 juin plus précisément, les Belges se sont levés le matin avec l'espoir de changer les choses. Oui, ce jour-là, ils retournaient aux urnes pour voter et voir se former un gouvernement. Deux partis sortent vainqueurs de ces élections, le PS et la NVA. Aux joies, s'écrièrent les habitants. Enfin, le travail pourra commencer. Mais ils étaient loin de s'imaginer que près de 200 jours plus tard, leur cher pays serait toujours dans le bourbier. Car oui, le 13 juin marqua aussi et surtout le début d'une longue saga. Le 17 juin, Bart De Wever, le président de la NVA, est nommé informateur par le roi. Il entame une série de consultations, mais le 8 juillet, il est déchargé de sa mission. Le soir même, le président du PS, Élodie Rupeau, est désigné préformateur. Il instaure une double dynamique, une négociation sur la réforme de l'État avec les sept partis et une négociation sur la formation d'un gouvernement qui n'a jamais commencé. Bingo, le 27 juillet, première réunion des sept partis pressentis pour soutenir la réforme de l'État, le PS, NVA, CDNV, CDH, SPA, Écolo et Groen. Après deux rapports au roi, le souverain demande à Di Rupo de persévérer après avoir engrangé des progrès importants selon le communiqué du Palais Royal. À ce moment, l'espoir renaît. Mais le 26 août, force est de constater un blocage sur pratiquement tous les points et la NVA remet en cause un accord qui semblait acquis, à savoir celui du refinancement progressif de la région bruxelloise pour arriver à 500 millions d'euros en 2014. Le 3 septembre, nouvelle réunion des sept partis qui se soldent par un échec. Ce sera la dernière fois que les sept se réuniront tous ensemble. Le roi désigne alors des médiateurs en vue de relancer les négociations. Il s'agit d'André Flao et de Danny Peeters. Ils tentent tant bien que mal de rétablir la confiance, mais le 4 octobre, lors d'une conférence de presse, le président de la NVA, Bart De Wever, fait savoir qu'il veut repartir de zéro et lance un appel au gouvernement en affaires courantes pour qu'il poursuive la gestion du pays. Les deux médiateurs constatent l'impossibilité de relancer les négociations. Le roi charge alors Bart De Wever d'une mission de clarification visant à rapprocher les points de vue des sept parties autour de la table, mais sans succès. L'homme dira même une dizaine de jours plus tard, fabula acta est, la pièce est finie. Et c'est alors que, de village en village et de ville en ville, un nom se murmure, Johan van de Lanotte. Oui, le socialiste flamand pourrait être notre sauveur. La rumeur arrive jusqu'aux oreilles du roi qui le nomme alors conciliateur. Il remet alors une première note le 24 novembre, puis une deuxième, plus succincte, le 14 décembre. Tout semble aller alors pour le mieux. Et le 3 janvier, le conciliateur transmet par porteur et sous pli fermé une note globale. Groen est le premier à donner sa réponse, un oui, suivi de celui du SPA. Du côté des francophones, on répond oui mais, et CDNV et NVA répondent un non mais. Et là, sonne le glas pour l'homme du SPA, qui pendant des semaines à tenter de rassembler les partis. Le 6 janvier, il annonce qu'il jette l'éponge. Le roi décidera le lundi 10 janvier s'il accepte ou non sa démission.
C'est donc demain que le roi a décidé s'il accepte ou non la démission de Johan de Lanotte. Johan de Lanotte pour qui le constat en fait est clair. Il n'y a pas de volonté suffisante pour négocier. Il l'a déclaré en conférence de presse jeudi soir. On l'écoute.
Il y a un vieux proverbe anglais qui dit « You can lead a horse to water, but you can't make it drink ». Ce qui veut dire qu'on peut mener son cheval à l'eau, mais qu'on ne peut pas le forcer à boire. Voilà qui résume bien les limites de chaque mission de conciliation. Un jour, il faudra néanmoins que le responsable politique franchisse ce pas, dans l'intérêt de la prospérité de notre pays. C'est la mission démocratique la plus difficile, mais aussi la plus essentielle que les responsables politiques ont à remplir.
Je me tourne vers vous, Daniel Baclen. Le MR n'est pas impliqué dans les négociations, du moins pas encore, mais ça on y reviendra. Vous avez donc un regard extérieur à tout ce qui s'est passé, et comment les réformateurs perçoivent ce nouvel échec? Ce n'est pas le premier, Aurore nous l'a expliqué.
Mais comme vous le dites, nous ne sommes pas associés à ce simulacre de négociation qui dure maintenant depuis 210 jours, record absolu des négociations politiques pour former un gouvernement en Europe. Non seulement c'est un record absolu de 210 jours, mais au-delà de cela, c'est aussi un record mondial, à mon avis, que des négociations pour former un gouvernement se passent dans une ambiance telle que celle qu'on a pu vivre ces derniers mois, ces 6 ou 7 derniers mois. Et il est quand même assez extraordinaire de constater que sur ces 210 jours, les négociateurs des 7 parties se sont vus ensemble pendant 35 jours. 35 jours de négociations sur 210 jours. On n'a jamais vu ça dans aucun régime démocratique. Et ça, je pense quand même qu'il faut prendre la mesure de la gravité de la situation. Et je pense réellement qu'il s'agit non seulement d'un échec, mais aussi d'une perte totale de confiance. Et nous pensons vraiment qu'il y a eu à la fois erreur de méthode, erreur dans la concertation francophone, erreur dans l'absence et le vide total de prise en considération des vrais problèmes socio-économiques dans notre pays. Et là, je pense que les responsabilités sont graves, me semble-t-il.
Alors, Marc Eskens nous a rejoint dans les studios. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ministre d'État CDNV. On vient de parler du fait que Johan van de Lanotte a jeté l'éponge, qu'il n'est pas le premier à avoir décidé de donner sa démission dans cette mission de conciliation pour trouver, pour réformer l'État et trouver un nouveau gouvernement, former un nouveau gouvernement. Le CDNV a lui refusé avec la NVA de retourner à la table des négociations, en tout cas avant que la proposition de compromis ne soit modifiée. Alors certaines voix au sein de votre parti se sont élevées contre cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Mais je dois rectifier une série de paroles que vous avez prononcées. D'abord, j'espère que M. van de Lanotte va pouvoir continuer, qui sera donc réinvesti par le roi lundi, parce qu'il faut absolument que nous ayons un gouvernement. Les marchés financiers sont méchants. Et une spéculation financière contre la Belgique n'est nullement exclue. On songe, M. Renders a fait une proposition ce matin, j'étais au studio avec lui, pour former un gouvernement provisoire avec des pouvoirs qui lui seraient accordés par le Parlement. En cas de nécessité, moi je ne suis pas opposé à cela. Mais la meilleure solution, évidemment, c'est qu'on puisse former un gouvernement définitivement sur des bases qui nous permettent aussi de réformer l'État. Deuxièmement, quant au CDNV, il y a eu quelques confusions. Il y a eu peut-être une mauvaise perception. On n'a jamais dit qu'on n'allait plus négocier. Nous avons toujours été partisans des négociations. La seule chose que notre président a dit, c'est qu'il ne fallait pas modifier nécessairement la note de M. Van de la Notte, mais bien créer un cadre qui permette aussi de parler des amendements. Or, je constate que les amendements déposés par d'autres partis que le CDNV, par exemple CDH, sont beaucoup plus nombreux que les nôtres. Et donc, ma conclusion est très simple. Que de grâce, dès lundi, dès mardi, on se remette autour de la table et qu'on regarde aussi les amendements. Et qu'on essaye d'en arriver à un accord. C'est absolument vital pour notre pays. Et si évidemment le Parti libéral peut nous aider, tant mieux. Il ne faut aucune exclusive. Mais ce ne sera pas simple. Car j'ai entendu M. Minguin quand même parler des BHV, du problème de BHV. Je dois dire que son appréciation est extrêmement négative. Là, je ne vois pas très bien comment on pourrait arriver à un accord.
Il n'y a personne, M. Minguet.
On y arrivera de toute façon. Je me tourne vers Christophe Doulkeridis, puisque vous n'êtes pas encore prononcé. Écolo a accepté la note de Van de la Notte, mais c'est un oui, mais quelle différence entre le oui mai d'Écolo et le non mai du CDNV?
Ah, mais si, la différence est assez énorme, dans la mesure où la question qui était posée par M. Van de la Notte, qui a fait un travail, il faut le répéter, j'ai bien apprécié le compte-rendu de ces derniers mois fait par Aurore tout à l'heure, parce que c'est important de se remettre les idées en place, et de mesurer que, entre les élections qui ont eu lieu au mois de juin en 2010, et aujourd'hui, et ce qu'il y a dans le rapport de M. Van de la Notte, il y a un contenu, mais très très considérable. C'est-à-dire qu'il est évident que les deux partis qui étaient gagnants, la NVA et puis le PS de l'autre côté, quand ils ont commencé toutes ces discussions et proposé un cadre de travail avec cette formation politique, entre ce moment-là et aujourd'hui, mais il y a énormément de choses qui ont changé sur le fond. Et la note de M. Van de la Notte apporte des modifications extrêmement profondes de la Belgique. Et conduisait à essayer de trouver une espèce de nouveau point d'équilibre pour dépasser la Belgique d'hier, que manifestement une partie du pays ne veut plus, et en tout cas exprimée très 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 clairement par des partis comme la NVA, mais aussi par le CDNV, et une évolution et de demandes qui étaient aussi rencontrées du côté francophone, telles que le fait que les trois régions puissent être sur un pied d'égalité, et en tout cas financées sur un pied d'égalité avec le refinancement de Bruxelles et d'autres points qui devaient avancer. Et quand on se retrouve là, et que M. Van de la Notte, après avoir fait un exercice assez brillant, pas évident, parce que forcément, aucun des partis ne pouvait se retrouver à 100% autour du texte de M. Van de la Notte.
C'est l'idée du compromis.
Et en même temps, il fallait que tous les partis puissent avoir une base minimale autour de laquelle ils puissent s'identifier dans ce document. Eh bien, Écolo a dit, on a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, évidemment, mais on soutient la démarche d'entrer dans une négociation avec autour de ce document-là. Les réserves qui ont été exprimées n'ont pas été exprimées dans un sens, ont été exprimées exactement dans les nuances qui ont été proposées par M. Van de la Notte lui-même. À savoir qu'il avait dit, ce n'est pas un document à prendre ou à laisser, il y aura encore une marge de négociation, de discussion possible, mais chaque fois que l'on touche à un élément, ne vous étonnez pas que l'on doive corriger pour le re-rendre équilibré, ce qui me paraît totalement logique. C'est bien donc dans cette logique qu'on a voulu travailler, et il y a une autre nuance qui était sur les chiffres et les montants. À partir du moment où M. Van de la Notte avait dit « on n'accède pas à un système qui compte et qui mesure exactement quelle va être l'évolution et l'impact financier pour chacune des entités avant d'avoir accepté la négociation, forcément on a dit, ben, sous réserve aussi de voir les chiffres que ça peut représenter pour les prochaines années, et puis avançons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à plus de 200 jours des élections, répondre et prendre le risque de répondre autrement que par oui, et éventuellement oui mais, et de répondre non, est quand même d'une irresponsabilité par rapport aux citoyens que moi je ne peux pas comprendre. Et donc, on doit absolument, et je pense que le choix du roi de ne pas accepter directement la démission de M. Van Hollenhout et d'essayer de prendre un peu de temps, j'espère, va servir, et j'entends bien M. Eskens qui, je pense, est vraiment sur cette longueur d'onde, à faire en sorte que chacun puisse encore un peu mesurer le choix de sa réponse. Avant de réenvisager d'autres scénarios qui, inévitablement, qu'on le veuille ou non, parce que moi, Ecolo n'a strictement aucune difficulté à mettre dans le jeu le MR ou l'OpenVLD ou d'autres encore, si ça peut rapprocher d'une solution. Mais mesurons bien que si on devait repartir dans un scénario presque à zéro, alors que 200 jours sont déjà passés, ça risque de compliquer un peu plus la situation encore.
On en parlera. Alors, que vous sachiez, on a eu énormément de mails depuis qu'on a annoncé cette émission, depuis jeudi, et donc les auditeurs qui se posent énormément de questions. C'est d'ailleurs l'émission qui nous a apporté le plus de questions d'auditeurs. Aurore, est-ce que vous pouvez nous en lire quelques-unes?
Alors oui, j'ai commencé avec une question qui s'adresse particulièrement à Monsieur Eskens. Que doit-on faire aujourd'hui pour contenter le CDNV afin de trouver un compromis? Parce que depuis le début des négociations, on a l'impression que le CDNV suit un petit peu la NVA. C'est l'avis de cet auditeur, en tout cas.
Mais j'ai parlé tout à l'heure de perception. Il faut bien se rendre compte qu'évidemment, mon parti est quelque peu traumatisé par la défaite électorale et que selon des études savantes et sociologiques qu'on a fait effectuer, il semble que le fait de ne pas avoir eu un profil suffisamment, disons, communautaire n'est pas servi le CDNV lors des prochaines élections. Cela étant dit, il faut songer évidemment d'abord à notre pays. Est-ce que je peux quand même souligner que notre président, notre jeune président, vient encore de souligner la semaine passée, lors d'une interview télévisée, que les démocrates chrétiens ne sont nullement des séparatistes. Nous rejetons donc le plan B. C'est pas d'ailleurs les partis flamands qui ont évoqué le plan B, c'est un parti francophone, disons-le quand même très clairement. Donc pour nous,
il y en a un qui a quand même un plan B dans son programme, qui est la NVA. Hein.
Oui.
Il y a un parti, dont l'objectif est la fin de la Belgique.
Oui, mais ça c'est clair. Voilà. Mais c'est nullement notre position. J'ajoute en tant que démocrate chrétien, qu'un chrétien ne peut pas être un nationaliste ou un ultranationaliste. Nous sommes un parti de solidarité. Et donc, quand on parle de sécurité sociale, moi, je suis contre la scission de la sécurité sociale. Il faut évidemment donner certaines responsabilités aux régions, aux communautés. Ça peut se régler. Et je trouve, comme vous d'ailleurs, que la note de M. Van Hollenhout est une bonne note. C'est une bonne base de discussion. Amendable, bien entendu. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas un accord définitif, il y a un accord sur rien. Mais soyons raisonnables, les marchés exigent un signal fort. On pourrait, par exemple, déjà engranger ce quoi on est d'accord et faire une réforme de l'État en deux ou en trois phases. Non, moi, je suis partisan d'une réforme de l'État en un point, pour l'instant. C'est la modification de l'article 46, qui n'est malheureusement pas ouvert à révision. Enfin, il y a un biais pour quand même le modifier. L'article qui dit que le roi peut dissoudre le Parlement. Dans la note de M. Van Hollenhout, très judicieusement, il propose de porter la législature à 5 ans, de faire coïncider toutes les élections. Et j'ajoute un élément, à mon avis, fondamental. Il faut que le Parlement fédéral devienne un Parlement de législature et que le Parlement ne soit plus dissoluble. Mmh. Car ce que M. McLean vient de dire, la pérennité des négociations, c'est dû à cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des négociateurs, la menace de nouvelles élections. Oui. Donc il faut enlever cette menace.
C'est pour ça que le problème ne date pas de nous. On a quand même l'impression, en tant que journaliste, on a l'impression que ce n'est pas vraiment une menace, que certains cherchent ces nouvelles élections.
Mais
c'est pas votre avis. Je vous voyais vous tortiller sur votre chaise, M. McLean.
Le signal fort qu'attendent les marchés,
ce n'est pas évidemment ni la scission de l'arrondissement de BHV, ni les problèmes institutionnels. Le message qu'attendent les marchés, et si on veut sauver notre pays des spéculateurs, c'est évidemment d'aborder le socio-économique immédiatement. Il est scandaleux, je pèse mes mots, que si début janvier, on n'aborde pas résolument le socio-économique. On a réussi un équilibre budgétaire 2010 qui est un bon équilibre budgétaire et un bon résultat budgétaire. On a réussi à aller même plus bas en termes de résorption du déficit public que ce que préconisait le pacte de stabilité européen. On a maintenu la dette en dessous de 100%. On a donc de bons résultats et de bons fondamentaux pour 2010. On doit faire la même chose pour 2011 et on ne peut pas attendre. Oui. On doit donc aborder les réformes nécessaires, les économies nécessaires pour rejoindre le pacte de stabilité. Les régions doivent le faire aussi d'ailleurs, de telle sorte que l'on donne un véritable signal au marché. Oui. Sinon, si on se met simplement de nouveau, si vous vous mettez de nouveau autour de la table pour discuter uniquement des problèmes institutionnels et que par rapport au socio-économique, il ne se passe rien, c'est catastrophique.
Oui. Est-ce que je peux quand même souligner les mérites de M. Reynders, qui, sous la houlette de M. Van Rompuy, quand lui était Premier ministre, a fait deux budgets. Ils ont fait le budget 2010 et déjà l'architecture de 2011.
Tout à fait.
Donc, il y a des éléments qui, normalement, d'enfants de confiance au marché, mais évidemment, notre énorme endettement, il y a le fait que la Belgique doit emprunter 80 milliards l'année prochaine. Ouais. Et donc, cette inquiétude des marchés, je la comprends aussi, étant donné aussi la zizanie politique et l'image absolument néfaste que notre pays donne à l'étranger. Mmh. On est la risée du monde aujourd'hui. Et ça coûte cher aux citoyens.
Alors évidemment, vous rappelez que les questions étaient essentiellement posées par les auditeurs. Je crois que nous avons une question pour Christos Doulkaridis.
Alors oui, c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu partiellement, mais c'est un auditeur qui fait la remarque suivante, qui dit que c'est un petit peu facile de répondre oui quand on sait d'ores et déjà que les négociations ne vont pas continuer dans la mesure où il y a déjà eu le non du CDNV et de la NVA.
Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi l'actualité dans l'ordre, si vous voulez. On a répondu, le parti écolo a répondu que le CDNV ne fasse sa réponse et avant que la NVA fasse sa réponse. Donc on peut nous chercher des poux. Et c'est sans doute le bon moment, hein, parce que tout va mal et donc je peux comprendre. Mais je vais vous dire, moi je ne vais pas tomber dans ces jeux qui sont très politiciens et qui ne servent à rien. Et je ne vais même pas commencer à critiquer les uns et les autres dans leur posture. On est dans la majorité, on est dans l'opposition. Est-ce qu'il faut un gouvernement? Est-ce qu'il n'en faut pas? Etc. Je trouve que la situation est catastrophique, réellement. Qu'il y a un manque de courage politique qui est extraordinaire. Moi, hier, j'étais en train de réfléchir. Je me rappelais une citation, une réplique dans un film. C'était « Le cœur des hommes ». Où à un moment, tout est bloqué, les gens se retrouvent devant des impasses, et puis un des acteurs, une réplique, il dit « La question qu'on devrait vraiment se poser parfois, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Et sincèrement, j'invite les uns et les autres, je nous invite à nous poser la question pour de temps en temps prendre un tout petit peu de recul et revenir sur Terre et se rendre compte de l'enjeu qu'on est en train de représenter dans chacune de nos décisions. Et je disais, Écolo a dit oui, alors qu'il n'y avait pas 100% de son programme, évidemment, dans la note de M. Van der Leyen. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais parce qu'on est conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rester comme ça, sur le côté, à attendre d'avoir toujours plus et encore plus, avant de pouvoir se décider à avancer. Et on parlait des marchés qui sont super agressifs, mais ça a un coût pour la société, mais qui est incroyable. Je veux dire, sans faire de faute, sans faire de choix, on est en train de perdre des millions, des dizaines de millions, tout ça parce qu'on a cette fragilité d'un système où il y a essentiellement quand même un parti qui dit non, et qui est le même parti d'ailleurs qui avait dit non à la constitution d'un gouvernement avant la conclusion de questions institutionnelles, la NVA, et puis et on est là et on attend quoi? On a demandé qu'il y ait beaucoup plus de réformes vers les régions, on le fait. On a demandé qu'il y ait une révision de la loi de financement, on l'a fait. Elle est profonde, ce n'est pas des détails qui sont réalisés là-dedans. Alors jusqu'où est-ce qu'on doit aller avant de pouvoir avoir un signal un peu positif de ce parti pour se dire, enfin, on peut avancer et maintenant on peut s'attaquer aux véritables problèmes.
Oui, moi je veux dire, il y a de deux choses l'une. Soit les sept partis je ne dis pas vont se rasseoir autour de la table, puisqu'ils n'y sont plus depuis 4 mois ou presque 5 mois, mais acceptent de discuter par note interposée et par communiqué interposé et continuent cette négociation institutionnelle. Mais dans ce cas-là, il faut que parallèlement à cela, le gouvernement en affaires courantes aujourd'hui se donne les moyens
par mais je vote suis, on n'est pas du tout opposé à ça.
De prendre un certain nombre de mesures. Soit les sept parties constatent leur échec. Mmh. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut essayer autre chose. Ce n'est pas parce qu'une formule n'a pas marché qu'il n'existe pas d'autre formule. Mmh. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement réducteur de dire qu'il n'existe pas d'autre formule. Il existe d'autres formules. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. On est à partie de responsabilité. Je rappellerai une citation de Jean Gol, d'ailleurs, qui disait « Quand l'heure est grave, c'est l'heure des libéraux ». J'ai toujours retenu ça et je pense que c'est vrai.
Simplement, M. Baclène, reconnaissez que l'heure des libéraux a aussi existé. C'était juste avant les élections de 2007. Et simplement avec humilité. Parce que franchement, ce n'est pas une critique ou un reproche.
Et je comprends que
le problème ne date pas de maintenant. Il date au moins depuis 2007.
Et je comprends. Attendez, je termine. Et la deuxième formule, c'est de changer de méthode. De changer de méthode et de faire une négociation avec peut-être d'autres partenaires, peut-être les mêmes, je ne sais pas, mais en tout cas changer de méthode, reconnaître que Bruxelles existe, parce que je trouve quand même que éliminer et exclure pendant 7 mois le premier parti à Bruxelles, c'est une façon d'exclure Bruxelles quelque part, et même inconsciemment de considérer que Bruxelles n'a pas d'importance. Je ne trouve pas ça logique. Deux, il faut changer de méthode et peut-être voir ce qu'on veut réellement faire ensemble, non pas seulement sur le plan institutionnel et fédéral, mais ce qu'on veut faire ensemble en termes de grandes réformes pour les gens. Parce que faire l'éclipse totale et ne pas parler de ce qu'on veut faire ensemble à l'avenir pour les pensions, de ce qu'on veut faire ensemble à l'avenir pour les soins de santé, de ce qu'on veut faire ensemble à l'avenir pour le chômage, ça m'apparaît complètement être en dehors de la réalité. Et je crois qu'à un moment donné, il faut soit une nouvelle formule avec une nouvelle méthode, soit accepter que l'on discute d'urgence des problèmes socio-économiques en parallèle avec une discussion institutionnelle qui pourrait prendre du temps.
Première priorité, il faut absolument éviter de nouvelles élections.
Ça, je suis d'accord.
J'ai déjà dit, le parti qui prend la responsabilité d'élections anticipées, donc le parti qui débranche la prise, il risque de se faire électrocuter. J'ajouterai heureusement.
Mmh, ouais.
Parce que, imaginez-vous, qu'en pleine campagne électorale, sans gouvernement, on ait une spéculation contre la Belgique. Mmh. Nous savons que nos banques, quelques grandes banques, restent vulnérables. Tout cela, comme cela, pour quelques problèmes communautaires, quelques détails qu'on ne parvient pas à résoudre, entre nous soit dit. Hein, parce que je partage là votre point de vue, ce que Van der Lotte a fait est vraiment quelque chose de très important et c'est une base valable pour articuler autour un accord définitif. Deuxièmement, ce que vous dites, changer la méthode, c'est vraiment tout foire complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez à l'article 35 de la Constitution.
Non. Non. Quand on dit ce qu'on veut faire ensemble au fédéral...
Jusqu'à présent, c'est ça que vous avez dit.
Oui, mais quand on dit ce qu'on veut faire ensemble au fédéral, c'est décider de ce qu'on veut faire comme grande réforme pour ce pays.
Je vais vous raconter...
Ben oui. Et c'est indispensable.
Une anecdote que j'ai vécue. À l'époque, on a eu une réunion, c'est un peu un jeu, un game, avec un parti, séparatiste. Et on s'est dit, voilà, on va faire un exercice. On va essayer de concrétiser l'article 35. Donc, définir ensemble ce qu'on fait encore ensemble. Nous avions 13 ou 14 fonctions essentielles d'un État fédéral. Et nos partenaires de l'époque, ils ont remis une page blanche. Donc, si vous négociez sur l'article 35, vous donnez une prime et un droit de veto aux minimalistes.
Maglène, voilà, c'est simplement
ça qu'il faut faire. Juste si on peut recadrer un petit peu le débat. On parle de la NVA. Vous avez dit que le mieux, c'était que Johan van de la Note garde la main et qu'on continue à travailler sur base de cette note. Mais alors, Élodie Rupeau a appelé clairement cette semaine en conférence de presse à l'ouverture. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ses déclarations.
S'il faut élargir les négociations institutionnelles à d'autres partenaires, nous sommes ouverts. Nous n'avons jamais mis d'exclusive à l'égard de personne, si cela peut aider à trouver une solution.
Alors juste pour qu'on recadre les choses, il n'a pas nommé une seule fois les libéraux, donc ni le MR, ni l'OPLVD.
Je pense qu'il ne parlait pas de Blanche Belling. Je crois qu'il ne parlait pas de Blanche Belling. Donc probablement qu'il parlait des libéraux. Ça fait peut-être, c'est peut-être difficile pour lui prononcer.
Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, pourquoi c'est tellement difficile?
C'est sans doute cela. Mais moi, j'ajouterais qu'actuellement, ce que je critique dans la méthode qui a été utilisée, c'est le fait que les francophones, ça concerne davantage, sont allés devant les exigences flamandes comme s'ils devaient adopter chaque fois une position défensive par rapport à certaines exigences, mais sans jamais venir avec leurs propres exigences, hormis le financement de Bruxelles. C'est la seule exigence que j'ai vue se dessiner plus ou moins clairement. Mais pour tout le reste, il n'y avait pas d'exigence. Vous n'avez fait que progressivement aiguiser les appétits de la NVA. Moi, c'est ce que je constate en regardant de l'extérieur, puisque je n'y participais pas. Mais c'est vraiment le sentiment que l'on a quand on voit ce qui a été fait ces derniers mois.
Monsieur Dolcaridis.
Non, mais j'ai dit tout à l'heure, je vais être en contradiction, parce que j'ai dit je ne veux pas tomber dans ce piège de ces petits jeux. Mais arrêtez, je veux dire, vous avez été dans les négociations jusqu'aux élections, où effectivement, M. Minguin... revenant de je ne sais plus où là, téléphoner pour dire arrêtez tout, ça ne va pas, il en faut encore beaucoup plus, etc. Si on avait obtenu un accord avant les élections, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Si le MR avait compris l'importance de trouver un accord alors que le NVA n'était pas encore le premier parti de ce pays, peut-être qu'on aurait eu... Hein. Bah, attendez, mais je veux dire, vous avez discuté avec M. Decroix, j'imagine, depuis lors, avec le VLD, c'est évident, que l'attitude aussi qui a pu exister à un moment donné, qui n'a pas compris qu'il était essentiel d'avancer dans un accord avant les élections qui... avec toutes les chances et le résultat qu'on a eu, à savoir un NVA totalement renforcé, forcément qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, mais peu importe. Aujourd'hui, écoutez.
En 2005, on a négocié un accord sous M. Verhofstadt, avec l'accord de M. Minguin. On avait trouvé un bon accord pour la périphérie
bruxelloise. Mais qui n'a pas abouti non plus.
Un minuscule parti flamand.
Mais qui n'a pas abouti non plus. Donc beaucoup d'humilité, simplement.
Ça veut dire que nous sommes capables, nous l'avons montré, d'un accord avec M. Minguin. Le FDF n'a jamais fait
capoter un accord. Un accord qui n'a jamais abouti n'est pas un accord, simplement. Mais bien sûr, c'est ça la difficulté, parce qu'autrement, je pourrais aussi dire qu'on est tout près d'un accord. Il n'y a que deux parties sur sept qui ne sont pas d'accord.
Tout le monde émet des objections, d'ailleurs,
pas de la même façon.
Revenons, puisque là on parle de ce qui se passait avant, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Donc Élodie Rupeau appelle à une ouverture. Au départ, donc Bart De Wever, une fois que Johan van der Lennep a donné sa démission, a proposé lui qu'on négocie à deux, donc les deux grands vainqueurs, NVA et PS, ce que le PS a refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, faire des négociations à neuf, et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Eskens, et vous aussi, Monsieur Dolcaridis, ça prendra énormément de temps de reprendre les négociations, puisque le MR et l'OPNVLD ne sont pas attachés à ce qui est sur la table aujourd'hui. Et si eux appellent à... Et vous êtes là, M. Baclen, appelle à recommencer tout du début, puisqu'ils ne sont pas liés par ce qui a déjà été mis
Mais il y a encore une autre question à poser.
Mais il n'y a aucun accord. Hein.
Une autre question à poser. Prenons l'hypothèse qu'en effet, les libéraux se mettent tout à table, qu'on négocie à neuf et qu'on arrive à un accord. Mmh. Et qu'on ferait une espèce de gouvernement national, étant donné la situation dramatique de la Belgique. Est-ce que les deux partis libéraux sont prêts à entrer dans un gouvernement fédéral sans qu'ils entrent dans les gouvernements régionaux? Car pour faire une réforme de l'État, il faudra aussi l'appui des trois instances régionales.
Écoutez, ce n'est pas nous qui avons inventé le concept des coalitions miroirs. Hein. Ça ne vient pas des libéraux, ça vient des socialistes qui considèrent qu'il faut des coalitions miroirs. Bon, ça, c'est eux qui ont dit ça, c'est M. Dirupeau qui a dit ça dès le départ, qu'il fallait les mêmes coalitions dans les régions et au fédéral. Donc ce n'est pas nous qui avons dit ça. Nous, on a toujours dit que sur le plan socio-économique, on était prêt à rentrer au fédéral. Si c'est pour faire une véritable politique sur le plan socio-économique, si c'est pour faire du bricolage, on n'ira évidemment pas.
Et si c'est pour faire une réforme communautaire?
Ah mais pour autant que ce soit un gouvernement de type socio-économique qui mette en priorité le socio-économique et qui démarre tout de suite, même si le communautaire n'est pas achevé, nous sommes d'accord de rentrer. Si c'est simplement pour rester sans gouvernement et attendre encore de très nombreux mois que les accords institutionnels arrivent, non, nous ne participerons pas à ça.
Il y a une petite limite au scénario qui est peut-être en train de s'esquisser, c'est qu'on a un vrai problème puisqu'on n'a pas de gouvernement au niveau fédéral. Cela dit, il faut remarquer que les gouvernements régionaux et communautaires, ils fonctionnent, eux.
Oui, c'est pas eux qui font les économies budgétaires.
Si, ils le font aussi, ça, je peux vous dire qu'ils le font aussi.
Pas dans le pacte de stabilité, mais ils n'ont pas encore fait leur 0,5.
Bien sûr que si, ils ont intégré absolument dans leur trajectoire, écoutez, ils ont intégré dans leur trajectoire au sein d'un... Oui, mais c'est dommage de mauvaise foi, parce que franchement, là-dessus...
Mais c'est la réalité.
Mais non, vous savez très très bien qu'il y a eu des réunions avec l'ancien gouvernement, avec des trajectoires qui n'étaient pas obligatoires mais qui sont respectées par les entités fédérées. Et donc, chacune là-dedans a donné son accord à un moment donné par rapport à une trajectoire, par rapport à 2015. Ce sont des trajectoires qui ne sont pas obligatoires mais qui sont respectées par les entités fédérées parce que, justement, chacun prend ses responsabilités par rapport à ça et qu'on est bien conscient qu'on ne va pas laisser tout l'effort à l'État fédéral qui donne aussi, effectivement, un certain nombre de politiques qui sont très importantes, comme la sécurité sociale pour les citoyens belges, quelle que soit la région où ils habitent. Et donc, il est important d'avoir cette solidarité à l'échelle nationale. Mais dire que la solution va venir par le fait qu'on va déstabiliser des gouvernements qui fonctionnent déjà dans les régions et dans les communautés pour trouver une solution au gouvernement fédéral, ça me paraît un peu bizarre.
Alors, sur le socio-économique, on était prêt à y aller sans contrepartie.
Je vous interromps parce qu'on a beaucoup de mails d'auditeurs et on aimerait bien que les auditeurs puissent vous poser évidemment les questions eux-mêmes.
Oui, alors il y a un mail qui est arrivé cette semaine et c'est une question un petit peu extrême peut-être qui vous intéressera tous les trois. Pourquoi persister dans le fédéralisme qui semble avoir atteint ses limites, un système qui a simplement accentuer les différences entre francophones, néerlandophones et bruxellois. Un retour à un gouvernement d'État pour tous les Belges ne serait-il pas plus intéressant et plus économique?
Qui veut répondre en premier?
Mais je reçois Monsieur des mails Skins qui vont exactement dans le même sens.
C'est peut-être le même auditeur. Hein,
du côté flamand, j'entends à longueur de journée dire « Nous avons la majorité dans ce pays, mais c'est une majorité muselée ». Il y a la sonnette d'alarme, il y a la majorité qualifiée, etc. On a la majorité, mais on n'a rien à dire dans ce pays. Bon, tout cela, il faut nuancer, bien entendu. Alors, je dois expliquer à ces braves gens qui posent cette question que la meilleure réponse, c'est de réinstaurer un système unitaire où la majorité joue pleinement. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Moi, j'ai vécu aussi, encore à l'époque de mon père, le début de la fédération de la Belgique. D'abord, l'autonomie culturelle exigée par les Flamands et l'autonomie économique exigée par les Wallons. On a additionné les deux exigences et voilà, on est en fédéralisme. Il fonctionne très mal. Alors, on évoque le confédéralisme. Là, je ris dans ma barbe. Hein. Oui. Il n'y a aucun pays qui est un pays confédéral. Le Benelux est une confédération, ce qu'il en veut, et encore. Non. Enfin, si ça peut faire plaisir à d'aucuns, moi, je n'ai pas d'objection qu'on appelle ça confédération. La Suisse n'est pas non plus une confédération. Non, il faut...
L'Europe, peut-être.
L'Europe est une confédération fédérale, une fédération confédérale.
Ouais. Malheureusement.
Mais il faut que notre fédéralisme soit rendu efficace. Il ne faut pas non plus croire qu'il faille nécessairement nous-mêmes inventer la poudre. Il y a des régimes fédéraux dans le monde qui fonctionnent relativement bien. Par exemple, la Suisse, avec une grande autonomie des cantons. Je suis chaque fois étonné de constater les énormes compétences des cantons. L'Allemagne. Et donc, bon, on peut aussi un peu s'inspirer à l'étranger. Mais de toute manière, ça a maintenant assez longtemps duré. Je ne vais pas exagérer, mais j'ai parfois l'impression que nous vivons la fin de la 4e République française. Une fin de régime. Ou qu'on ouvre une crise de régime qui va finalement se retourner contre la prospérité de la population. Et si, en période électorale, des gens de talent se levaient, les gens qui ont amené cet après-midi, pour dire maintenant, ça suffit. Tous ces politiciens sont des vaurins. Nous allons créer un grand parti, un rassemblement, un mouvement pour le renouveau du pays, tant au nord qu'au sud. Il pourrait faire un malheur aux élections. On aurait une tendance populiste, peut-être une tendance un peu démagogique. Mais attention, hein, le monde politique est devenu un château de cartes qui pourrait s'effondrer très rapidement.
Alors justement, donc, on n'arrête pas de le répéter, Johan Van de Lanotte a donné sa démission, il faudra changer, peut-être pas de méthode comme le dit Didier Reynders, mais en tout cas il faudra essayer de trouver un accord le plus rapidement possible, là-dessus je crois que vous êtes tous les trois d'accord. Pourtant on a le sentiment, et nos auditeurs ont le sentiment, puisque c'est ce qui ressort beaucoup dans le mail, que quoi qu'il arrive avec M. Bardewever, ce n'est pas possible. Et ce week-end par exemple, on a assisté à une espèce de cacophonie au sein de la NVA. Yann Yambon a déclaré que le parti devait partir, enfin voulait repartir de la note de Bart de Wever, donc celle qui a été rejetée en masse, en bloc par les partis francophones du moins. Mais très peu de temps après, voici ce que déclarait Bart de Wever lui-même à nos confrères de RTL TVI.
La note a été refusée, cette note n'existe plus. Hein. On ne peut pas partir d'une note qui a été refusée. Donc il y a deux acteurs flamands, notamment M. Van Lotte et moi-même, qui ont osé de mettre quelque chose noir sur blanc, qui ont osé de chercher le compromis. Tous les deux ont échoué. Donc il ne faut pas repartir de quelque chose qui a fini en échec. Il faut partir de quelque chose de tout neuf.
Donc partir de quelque chose de tout neuf, mais néanmoins, Bart de Wever qui annonce et son parti que sa note était la meilleure. Donc si Jan van de Lanotte reprend la main avec sa note à lui, est-ce qu'on ne se frotte pas justement à un problème avec Bart de Wever?
Il faut lire la note de van de Lanotte. Il dit clairement, il est clairement qu'il s'inspire d'abord des 12 points de M. Di Rupo et également de la note de M. de Wever. Donc il y a une certaine continuité, dans le raisonnement.
En fait, c'est très consensuel. Bon.
Mais donc il a voulu dire quoi, le président de la NVA, en déclarant que sa note était quand même... Parce que malgré tout, même s'il dit qu'il faut repartir d'une page blanche, c'est presque ça qu'il dit, hein, dans son... Malgré tout, Yann Yambon souligne encore
qu'il y a
que
quand
sa
même,
note était la base de travail.
Il y a deux thèses, et ces deux thèses, elles existent, je pense, dans la tête de tous les autres négociateurs depuis le début. C'est la première thèse, c'est que, bon, la NVA peut-être recherche... réellement à simplement modifier l'État et à donner beaucoup plus de responsabilités aux entités fédérées et de bonne foi. Et cette thèse a toujours été démentie par les actes à un moment donné et qui conforte une autre thèse qui est celle qui consiste à dire en fait peut-être que la NVA cherche simplement le pourrissement de la situation jusqu'à prouver que la Belgique ne fonctionne pas. Et ça, malheureusement, pour le moment, les faits montrent à chaque étape que c'est plutôt la deuxième thèse qui est dans les faits et pas dans les discours, celle qui remporte la thèse. Parce que pourquoi ? Cet été, il y avait une demande de travailler sur une grande réforme avec un transfert de compétences. Ça a été fait. Une fois que ce travail a été fait, M. de Wever a dit ça ne suffit pas. Il faut travailler sur la loi de financement. On a alors travaillé sur la loi de financement. Quand on a fait ce travail-là, on a dit ah non, ça ne suffit pas. Il faut aller encore beaucoup plus loin. On a eu alors maintenant tout le travail qui a été encore plus loin dans les deux, dans les modalités, dans la vérification, dans l'implication d'experts qui venaient de partout. Et c'est toujours pas bon. Et donc, à un moment donné, on est quand même en droit de se demander quel est le réel objectif. Parce que si l'objectif, c'est d'arriver à 100% du programme de la NVA, mais c'est ni une autre méthode, ni d'autres parties autour de la table, ni personne, va parvenir à trouver un accord, parce que c'est pas ça une négociation. Une négociation, c'est aussi, un équilibre quand même.
C'est aussi ce que ressentent les auditeurs. Je crois qu'Aurore, vous avez un mail qui résume bien le sentiment.
Oui, il y a un mail qui dit ceci. Étant donné que la NVA ne joue pas le jeu en déclarant à tout va, c'est pas nous, c'est le système qui ne marche plus, ne serait-il pas temps de faire une grande réforme de l'État avec les quatre familles traditionnelles sans la NVA?
Est-ce que c'est possible, monsieur Eskens, de négocier?
D'abord, il y a une question d'arithmétique parlementaire. Hein. Pour modifier certains mécanismes communautaires, il faut la double majorité, y compris donc dans le groupe flamand. Donc ça n'est pas si simple. Non. Quand on parle de changement de méthode, moi je voudrais dire qu'on peut modifier la méthode fondamentalement, au moins sur le plan psychologique. Moi je voudrais beaucoup que les négociateurs, demain après-demain, autour de la table, et même avec les libéraux, disent voilà. Un. Nous autres négociateurs, de toute manière, on récuse le séparatisme. Tous ceux qui sont ici, ils veulent moderniser la Belgique en maintenant l'État. Deux, tous ceux autour de la table veulent une beaucoup plus grande responsabilité en termes de compétences et des financements des trois régions et des communautés. Et trois, on récuse toute élection anticipée. Avec ces trois principes, on donnerait de la confiance,
la reconnaissance à la population comme une région à part entière.
Oui, il y a un quatrième qui est quand même
parce que ça, c'est une difficulté,
la reconnaissance
qui...
de Bruxelles et vraisemblablement et sûrement la défense des droits fondamentaux des gens. Nous, libéraux, on ne veut pas participer. Depuis 1842, le Parti libéral se bat pour les droits fondamentaux des gens. Moi, ça, je dirais, pour pour utiliser un mot un peu facile, c'est le core business des libéraux, les droits fondamentaux des gens. On s'est toujours battu pour ça. Et donc, on ne va pas céder là-dessus. Donc, moi, je suis pour la responsabilisation des régions. Au contraire, je trouve que ce serait salutaire pour les Wallons de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités. Je trouve que je suis favorable à cela. Et je trouve qu'il est tout à fait sot qu'une entité, quelle qu'elle soit, refuse d'assumer des compétences. Au contraire, il faut pouvoir les assumer. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Pas de problème aussi pour dire qu'il ne faut pas d'élection. Il ne faut sûrement pas d'élection.
Sans la répéter, vous l'avez répété, je crois que les trois
dramatique sur le plan financier pour notre pays. D'accord aussi pour dire qu'il ne faut pas de séparatisme. Nous sommes évidemment d'accord. Mais j'ajoute une quatrième condition. C'est la reconnaissance de Bruxelles. C'est la reconnaissance des droits fondamentaux des gens où qu'ils vivent. Ça m'apparaît quand même essentiel.
Est-ce qu'on ne peut pas vous satisfaire en disant, voilà, en ce qui concerne Bruxelles, on applique la Constitution?
Oui, mais pourquoi est-ce que M. Escanesla, franchement, c'est un des sujets où, sur de nombreux sujets, on est souvent d'accord. Vous n'êtes vous-même pas souvent d'accord avec votre parti, mais entre nous, en tout cas, on est souvent d'accord. Mais je vais vous dire, le point qui est le plus difficile, et vraiment là, je vous invite, puisque vous êtes à Bruxelles, et vous venez sans doute souvent, à discuter avec les Bruxellois. Et tous les acteurs bruxellois, que ce soit les travailleurs, que ce soit les autres, que ce soit le patronat, même la minorité néerlandophone qui est présente et qui est défendue, le fait que Bruxelles soit considérée comme une région à part entière, il y a un non-retour par rapport à ça. C'est une revendication, mais qui est extrêmement importante. Et là-dessus, il y a un blocage qui est vraiment très important, malheureusement, et que je ne peux pas comprendre. Si on veut construire une nouvelle Belgique demain, il faudra absolument tenir compte de ce fait-là aussi. Je suis totalement d'accord avec le transfert des compétences, la responsabilisation si elle se base sur des faits objectifs, c'est-à-dire sur le fait qu'on soit réellement responsable des résultats qui sont attendus. Et évidemment qu'on est contre le séparatisme, mais quel est donc cet argument qui fait en sorte qu'il y a tellement de difficultés pour une partie de la communauté flamande à ne pas reconnaître la région bruxelloise comme une région à part entière? Moi, je ne dis pas qu'elle ne doit pas jouer un rôle aussi comme capitale nationale, comme capitale des communautés, etc. Mais il n'empêche, elle doit être au même niveau que les deux autres régions, et c'est comme ça qu'on doit construire la Belgique de demain.
Mais il n'y a pas de blocage sur Bruxelles dans les négociations.
Vous savez très bien.
Monsieur Van den Lotte prévoyait un refinancement de Bruxelles considérable.
C'est pour ça qu'on
on avait même évoqué le montant de 500 millions.
Votre président,
Monsieur Van den Lotte a un peu réduit le montant.
Votre président, au moment des discussions, au moment de donner sa réponse, a dit que l'un des problèmes, c'était le fait qu'on donnait trop de responsabilités et d'autonomie à la région bruxelloise.
D'ailleurs, si je puis me permettre, il y a les auditeurs qui rejoignent un peu le point de vue de Christos Doukeridis.
On a eu beaucoup de mails d'ailleurs sur Bruxelles, puisque je pense que c'est, en tout cas, les auditeurs, eux, ont perçu Bruxelles comme la pomme de la discorde.
Oui, mais il y a l'autre proposition de M. Van den Lotte, la création d'une grande zone métropolitaine,
oui, c'est très positif,
qui englobe une partie du Brabant wallon, du Brabant flamand.
C'est très positif.
C'est très positif tout cela.
Ça, c'est très
donc, il n'y a pas de blocage total.
Mais alors, par exemple, sur les allocations.
Je vous interromps parce qu'on aimerait bien poser la question aux auditeurs.
Qui lui trouve, enfin entendu justement la réponse de Waterbeek par rapport à la note de Van den Lotte, et il déclare pourquoi cela pose-t-il autant de problèmes au CDNV et à la NVA que Bruxelles soit considérée comme une région à part entière. J'ai d'autant plus de mal à comprendre le CDNV qu'il occupe une place importante dans le gouvernement de Charles Piquet.
Pour moi, Bruxelles est une région unique.
C'est une belle entourloupe. Mais je vais vous donner un exemple concret, monsieur.
Moi, je défends deux fois ou trois fois par semaine en Flandre l'importance de Bruxelles. Non, monsieur, également que, pour la Flandre et pour les Flamands.
Que vous n'êtes certainement pas le pire. Je suis tout à fait sûr.
Le séparatisme qui consisterait en une sécession de la Flandre, car je ne crois pas à un séparatisme négocié, mais une sécession toujours possible, avec la perte de Bruxelles, ce serait pour la Flandre une véritable mutilation. Mmh. Et donc, moi, je plaide depuis longtemps pour que tant la Wallonie que la Flandre aient une politique bruxelloise. Une politique de coopération, de soutien de Bruxelles.
Mais les Bruxellois, ils veulent une politique bruxelloise de leur côté.
Et donc, on
a sur la table des dossiers comme les allocations familiales. Ça concerne la famille. Et donc, il y a deux thèses qui s'affrontent. On dit... Et c'est vrai que nous en faisons partie. On dit que s'il faut faire en sorte que les allocations familiales ne soient plus à l'État fédéral, pour nous, elles peuvent rester à l'État fédéral. Mais si elles ne doivent plus être à l'État fédéral, alors elles doivent aller aux régions. Pourquoi ? Parce qu'un enfant est égal à un enfant. On vit dans la même région. On ne peut pas avoir des enfants qui vont être dans des régimes différents
qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Il y a des familles qui envoient leurs enfants, parfois l'un dans un enseignement francophone et l'autre dans un enseignement néerlandophone. C'est impossible de pouvoir gérer ça si on est dans une logique qui est communautaire par rapport à ça. Et donc il est essentiel de comprendre que s'il y a des choses qui ont bougé en Flandre depuis des années et qui demandent beaucoup plus d'autonomie, qu'il y a des choses qui existent du côté wallon, qui demandent beaucoup plus de responsabilisation, etc., et d'autonomie aussi, il y a aussi des choses qui ont bougé à Bruxelles. Bruxelles, aujourd'hui, en 2011, c'est plus tout à fait Bruxelles comme elle existait il y a quelques années. Et les revendications pour une région à part entière, où les citoyens peuvent être considérés sur le même pied, eh bien, elles existent et elles sont légitimes. Et ça, si on veut construire une Belgique de demain, je pense que ça va être très difficile, et en tout cas, ce ne sera pas avec Ecolo, si on méprise cette réalité-là.
Alors, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que ce ne sera, à mon avis, plus difficile encore demain si l'OMR rentre dans les négociations avec le FDF sur la question de Bruxelles.
Mais sur la question de Bruxelles, je rappelle quand même, parce qu'on l'oublie, on l'a oublié à certains moments, les libéraux sont la première force politique à Bruxelles. On a toujours considéré normal que la première force politique en Flandre et la première force politique en Wallonie soient associées aux négociations. Je dis, il est aussi normal, si l'on veut vraiment reconnaître Bruxelles, que la première force politique à Bruxelles soit également associée. C'est une question de démocratie.
Mais venez, monsieur Baclay, non, ça m'apparaît, j'ai pas de problème.
Ça m'apparaît absolument normal. Ce que nous voulons, c'est bien entendu un lien très fort entre la Wallonie et Bruxelles. On ne s'en est jamais caché. Nous pensons que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit permettre l'organisation, la structuration des francophones dans ce pays. Ça nous paraît important. Ce qui ne veut pas dire que Bruxelles n'est pas non plus, est aussi, bien entendu, une capitale qui concerne les Flamands. Et donc, on s'étonne parfois de ce que, alors que c'est leur capitale, finalement, ils lui donneraient un statut inférieur. Il y a quand même un grand paradoxe qui est parfois un peu curieux. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'il faut que Bruxelles ait de l'espace pour son développement. Ça nous paraît essentiel. Il faut que ceux qui vivent autour de Bruxelles et qui sont francophones, comme la majorité des Bruxellois, puissent aussi avoir des droits, comme tous les citoyens de ce pays, pouvoir voter pour qui ils veulent au niveau francophone, pouvoir s'exprimer dans leur langue en matière judiciaire. Ça nous paraît quand même un des droits fondamentaux qui n'est remis en cause nulle part dans les pays démocratiques, sauf peut-être en Belgique. Et donc, voilà, il m'apparaît quand même que tous ces éléments-là ne peuvent pas être éclipsés. Et que donc, si nous entrons dans une négociation, ce sera pour représenter la force principale de Bruxelles aussi, mais avec des exigences assez fortes, très fortes, en matière du respect des droits des gens.
Monsieur Esken, ça vous fait peur au CDNV de négocier avec le FDF qui est au sein du MR concernant Bruxelles, puisque finalement c'est quand même là où tout coince.
Mais quand j'entends les déclarations de M. Minguin, en effet, je pense que je dois dire que c'est extrêmement difficile de s'entendre avec M. Minguin, étant donné sa prise de position. Bon, il est évident que si on peut réformer l'État, si la fièvre communautaire peut se baisser de quelques degrés, on pourrait instaurer un régime de tolérance et de compréhension mutuelle plus fondamentale. Mais dois-je quand même rappeler que la fixation de la frontière linguistique est un peu le noyau dur de notre vie en commun communautaire, et que la fixation de la frontière linguistique est la conséquence, avant la guerre, du refus des francophones d'accepter un bilinguisme national généralisé. Là, c'est une vérité qu'on doit à l'histoire. Et ça, c'est la conséquence. L'homogénéité linguistique des régions, c'est la conséquence du refus du bilinguisme. Avant la guerre, les Flamands étaient prêts à l'accepter. Ça a été refusé.
Oui, mais pourquoi a-t-on introduit des facilités, M. Eskens? On les a introduites justement en compensation du fait que l'on limitait Bruxelles aux 19 communes. Ça, c'est l'histoire aussi. Mmh. Parce que la discussion portait sur 25 communes au départ. Et puis, après, on a dit à un moment donné, ben non, on ne peut pas se mettre d'accord sur 25 communes, on va faire 19 communes, mais on va donner des facilités à la fois judiciaires.
C'est pour ça que, quel que soit le scénario, il faut que dans ces 6 communes, il y ait des réponses qui soient adaptées. Ouais. Parce que, effectivement, on ne peut pas faire comme si ce morceau de l'histoire n'avait pas existé.
Alors, le temps file et je voulais souligner avec vous, les mails qu'on a reçus sont nombreux de personnes qui sont déçues, qui sont un petit peu, comme beaucoup le disent, qui en ont vraiment ras-le-bol. On sent un véritable ras-le-bol et un pessimisme aussi. Il y en a beaucoup qui nous disent non, finalement, on n'y arrivera jamais. Et ce qui nous a marqué à Aurore et à moi, et je laisserai alors le micro à Aurore pour les mails des auditeurs, c'est une véritable défiance à l'égard des politiques aujourd'hui. Aurore, les mails qu'on a eus.
Oui, il y a plusieurs mails à ce sujet-là et déjà beaucoup de mails où on se demande comment vous allez faire pour vous entendre finalement. C'est la question qu'il se pose parce que ça fait plus de 200 jours maintenant que vous discutez entre vous. Enfin, là, on ne parle pas encore du MR, mais on parle des sept parties qui discutent entre eux mais qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et ils se demandent pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, vous vous mettrez d'accord.
D'abord, il y a, disons, l'expérience historique. Nous avons connu des dossiers communautaires également extrêmement explosifs par le passé, beaucoup plus passionnels qu'à l'actuel, d'ailleurs. Déjà, la question royale avait un relent communautaire. Il y a eu 4 tués. Le dossier sidérurgique, la fixation de la frontière linguistique, l'affaire des fourrons, etc., qui a fait tomber 3 gouvernements, dont les gouvernements de mon père. Donc, on a finalement résolu tout cela. Bon, je crois qu'on va encore y parvenir, mais Clio, la déesse de l'histoire, est cynique. Et ce serait pour moi un comble de cynisme que pour que les politiques, enfin, d'une manière raisonnable, acceptent un compromis constructif, il faille d'abord passer par une grave crise financière qui pénalise les épargnants et les citoyens de Belgique. Ça, ils n'ont pas mérité. Et donc, je comprends leur désarroi. Et je comprends aussi leur fureur. Et cette politique d'en tirer les conséquences, on joue non seulement avec l'avenir du pays, mais aussi avec l'essence même de la démocratie.
C'est bien pour ça, me semble-t-il, que dès le mois de janvier, il faut nécessairement que le gouvernement fédéral actuel, je ne vois pas quel autre pourrait le faire, décide de 2 milliards d'économies rapidement. Ça fait partie de ses engagements. C'est nécessaire pour respecter le pacte de stabilité pour 2011. Et donc, nous devons le faire. Et ne pas le faire serait de l'incurie. Et je pense que la priorité aujourd'hui, elle est celle-là. Nous devons donner très clairement, bien sûr, à l'instabilité politique qui est dommageable sur le plan extérieur. Je le sais, je le comprends. Mais nous devons donner des signaux très clairs sur une capacité de gestion socio-économique. Ça, c'est fondamental.
Et M. Doulkaridis, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux auditeurs? Je me tourne vers vous, puisque M. Eskens et M. Baklen viennent de répondre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, et vous pouvez tous les trois répondre, pour essayer de redonner la confiance aux citoyens belges dans le politique? Parce que finalement, alors, d'accord, il y a les marchés financiers, il y a tout ça, mais il y a également le fait que demain... nous, en tout cas, dans les nombreux mails qu'on a reçus, c'est ce qui ressort le plus. Alors, il ressort Bruxelles, il ressort les questions sur quel sera le prochain heure, enfin bon, les questions habituelles. Mais beaucoup n'ont même pas posé de questions et ont tout simplement dit, aujourd'hui, on n'allume plus la télé, on regarde plus les infos, on ne sait même plus de quoi il s'agit, puisque ça ne nous intéresse plus, demain, il y aura un nouveau heure. Voilà, c'est ça qui ressort.
Mais je comprends parfaitement. Je ne dirais pas que je me retrouve dans cette situation parce que c'est justement mon job. Le job du politique, c'est d'essayer de trouver des solutions pour vivre ensemble. S'il fallait résumer ce que c'est qu'être politique, c'est ça. C'est essayer d'utiliser toute son énergie pour trouver des solutions. La difficulté, elle vient d'où ? Elle vient qu'on ne sait pas faire ça non plus tout seul. Et que dès lors qu'on est dans un schéma où il y a manifestement un des acteurs, ou peut-être deux, qui n'a pas le même objectif que vous, c'est-à-dire trouver la solution d'un point d'équilibre, mais alors forcément tout le monde paye l'addition à la fin. Et quand je dis tout le monde, ce serait rien si c'était les partis politiques. Le problème, c'est qu'en cascade, c'est évidemment les citoyens aussi qui payent ces conséquences, et c'est ce qui rend inacceptable cette situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, à Écolo, on s'est braqué beaucoup plus, et depuis ce qui s'est passé avec la note de M. Van de la Note sur l'attitude de la NVA. Et ce n'est pas par plaisir d'être agressif par rapport à ce parti, que je respecte finalement. Il a été élu et il a les représentants que les citoyens leur ont donnés. Mais en même temps, ouvrons un peu les yeux et en tout cas faisons ce test. Et demandons clairement quel est l'objectif de cette formation. Moi je ne voudrais pas avoir trop raison là-dessus. Je préférerais que la NVA montre sa capacité à un moment donné à accepter de rentrer dans une logique où chacun ne gagne pas à 100% et où il y a un nouveau point d'équilibre en tenant compte que le contenu est très important. J'espère, par rapport au CDNV, qu'il ne va pas faire la même erreur que le MR a faite juste avant les élections, à savoir laisser passer une occasion d'avoir un accord. Parce que si effectivement la situation se pourrit encore plus, on ira dans un blocage et on ira à des élections qui vont rendre la situation encore plus inextricable au lendemain des élections. Et donc on doit juste tous être attentifs. Et M. Lesquen sait que quand je dis ça, c'est certainement pas personnellement que je lui dis. Je pense qu'il est un des artisans au nord du pays, un des sages dans ce pays, qui essaie de tirer vers la responsabilité et vers le sens justement de l'intérêt général. C'est pas évident, qu'on rame parfois à contre-courant, mais il ne faut surtout pas laisser cette énergie aux autres. Et il ne faut surtout pas laisser le bateau à ceux qui veulent le moins des solutions.
Monsieur Eskens, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour essayer de les rassurer un petit peu sur l'avenir ? En quelques secondes, puisqu'il nous reste une minute.
Mais qui vit dans un pays extraordinaire. Nous sommes un pays multiculturel depuis l'époque de Jules César. C'est une formidable richesse. Mais cela implique en effet des conséquences extrêmement graves pour les politiques. Les politiques, au fond, en Belgique, sont appelés à gérer les contradictions. Nous sommes un pays fait de contradictions. Et pour les vaincre, il faut avoir le courage de conclure des compromis.
Et il y a des vérités contradictoires, disait Isaïe.
qu'on peut additionner utilement, c'est-à-dire prouver aujourd'hui par la science moderne, la physique quantique. Bon, et donc, moi, je ne désespère pas. Mais et maintenant, vraiment, il faut se remettre autour de la table. Il est presque minuit, au-delà de minuit. Et donc, il est temps, sinon on sera sanctionné par les marchés financiers.
Oui. Oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut préserver le pouvoir d'achat des gens. Et pour cela, il faut prendre des mesures socio-économiques immédiatement et rassurer les marchés. Ça, c'est la première des urgences. Pour l'institutionnel, on peut encore en discuter, mais je pense qu'il y a une urgence socio-économique.
En tout cas, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux mails de nos auditeurs. Merci à vous, Marc Eskens, Monsieur Daniel Baclen, et à vous, Christos Doulkeridis, d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Voilà, et je souhaite à nos auditeurs une excellente soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine à 18h30 pour On en parle.
La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus.
Yes, we can.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
Australia? Yes. Belgium? Yes. France? Yes.
Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained.
Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Peres, Mr. Abbas, welcome to this great occasion of history and hope.
On en parle, c'est l'actualité, un invité et vous, les auditeurs. Aurore Boukassa et Miri Maman, nous vous proposons de revisiter l'actualité de la semaine avec l'un de ses acteurs. Parce que certains sujets sont souvent trop peu développés, parce qu'il est parfois judicieux de creuser l'information, on en parle. Dans cette émission, c'est vous qui posez les questions. Deux solutions. La ligne directe en studio 02 648 7020 ou le mail onenparle.judaïka@gmail.com. On en parle donc tous les dimanches de 18h30 à 19h30 sur Judaïka.